Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Salut Stéphane.
Coucou.
Tu voulais revenir sur notre cher Tucker Carlson qui, après avoir dit qu'il fallait envahir le Canada, se moque de notre Parlement parce qu'un député du NPD qui a déposé une motion pour le dénoncer. On va écouter Tucker Carlson.
By the way, it failed, and we don't want to be too picky-une or anything, but we did not suggest the armed forces liberate Canada. You're flattering yourself, Canadian member of Parliament. We wouldn't need the armed forces. A couple of your college roommates just ran up the sled dogs, and you wouldn't be able to move.
Il dit, ouais, pas besoin des forces armées américaines. Coupe de colloque, puis on va y arriver pour envahir le Canada, là.
Pas plus qu'on a peut-être des forces armées canadiennes pour empêcher les ballons de surveillance de passer sur le territoire canadien. D'abord, une précision. Je te fais remarquer que l'histoire de Tucker Carlson, c'est vous qui l'avez partagée avec moi hier matin. Vous avez titillé ma curiosité. Et deuxièmement, il y avait effectivement un potentiel mocatif. Ça, c'est dérivé du verbe « moquer » dans ce que montrait Tucker Carlson, le très populaire animateur de la Fox News aux États-Unis, qui avait, je pense, avec beaucoup d'ironie, menacé d'envahir le Canada pour venir nous libérer de notre dictature. Et il y a apparemment un député qui, aux communes, a pris ça au premier degré et qui a suggéré que pour lutter contre les discours délirants de l'extrême droite, il fallait peut-être adopter une motion de censure à l'endroit de Tucker Carlson. Alors, il en a fait la demande.
On salue le NPD, hein?
Exact. Et je pense que le président ou la personne qui présidait aux communes à ce moment-là a dit « Est-ce que j'ai assez de votes ici pour qu'on considère cette motion de censure ou de blâme ou whatever? » Et puis tout le monde a fait « Nah! » Alors clairement, je pense que c'est un député qui n'avait pas le sens de l'humour ou n'avait pas compris que Carlson n'était peut-être pas sérieux quand il parlait d'envahir le Canada.
Oh là là, vive Fox. Tu veux nous parler de Mme El Gawabi?
En fait, de ce qui a retenu l'attention cette semaine, hein, mauvaise semaine pour le gouvernement de M. Trudeau, mauvais début d'année, serait-on tenté de dire. Alors, mercredi, je te disais qu'il était impossible que le bureau du premier ministre n'ait pas délibérément choisi Mme El Gawabi sans mesurer l'effet potentiel de ses déclarations sur l'islamophobie des Québécois. Il était aux communes mardi, M. Trudeau, 100% avec elle. Mercredi, après notre chronique, ou la mienne, en fait, il donnait l'impression de marcher peut-être un peu sur la peinture. C'était plus tout à fait monsieur 100%. Peut-être même laissait-il entendre qu'il n'avait pas idée de toutes ces déclarations fâcheuses. Moi, je continue de douter que ce soit vraiment possible, qu'ils n'aient pas fait leur devoir au bureau du premier ministre, des gens si habiles en général dans les communications, donc qu'ils soient incompétents. Point d'interrogation.
Ah, je te dis, moi, ça se peut fort bien. Ah, oui.
Écoute, je ne dis pas que c'est impossible qu'on n'ait pas fait le devoir, mais en même temps, c'est un choix qui peut tellement correspondre à un effet qui était recherché. C'est là que je dis
qu'on
peut aider l'ignorance. Je crois, moi, plutôt que le premier ministre se donnait, en fait, cette semaine, un peu de marge en laissant entendre qu'il n'avait pas pris connaissance de tout ce qu'elle avait dit ou écrit sur le racisme implicite des Québécois. En fait, il se donnait l'espace aussi pour la laisser seule au front, seule à payer le prix de son passé. Si la soupe devenait vraiment trop chaude pour lui et le parti, qui, convenons-en, est assez cynique pour un politique qui nous parle continuellement de bienveillance. Hein? Je ne sais pas si dans les circonstances, il l'est parfaitement avec la personne qu'il a très directement instrumentalisée. Je demeure donc assez convaincu qu'il y avait une manœuvre, quel que soit le degré de connaissance qu'il y avait de tout ce qu'elle avait dit, un choix politique pour créer de la division, se faufiler dans un espace politique qui lui est beaucoup plus favorable que le terrain où il est, où il serait attendu, espéré très certainement par son adversaire conservateur, M. Poilievre, le terrain de l'économie. Un sondage Abacus, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est en début de semaine, sur les intentions de vote des Canadiens, fait la démonstration de ce que ce terrain économique qui est particulièrement fertile pour les conservateurs. sondage a par ailleurs pas fait beaucoup de bruit. Ceci peut être lié à cela. Peut-être que justement les démêlés de Mme El-Gawabi ont fait de l'ombre à tout ça. Mais avant d'en parler du sondage, puis je vais revenir là-dessus, revenons aux instincts politiques de notre premier ministre et de sa garde rapprochée, parce qu'on s'entend que les décisions dans ce gouvernement sont souvent prises par peu de gens. Le premier ministre a vraiment peu de gens autour de lui. C'est des gens très puissants. Ils emmènent large. Moi, je pense qu'ils sont habiles et ont souvent été récompensés pour leur tour de passe-passe divisif, plus d'une fois. Parce que derrière le discours rassembleur, inclusif, officiel, il faut voir la réalité des gestes qui ont été posés par le premier ministre. Et avant de me dire non, on revient pas là-dessus, laisse-moi aller jusqu'au bout. Moi, je pense à la dernière campagne électorale fin de l'été 2021, quand M. Trudeau, après avoir plaidé pour le dialogue et la pédagogie pour amener les plus réfractaires à se faire vacciner, a comme changé de ton du jour au lendemain, presque overnight, pardonne l'anglicisme. Soudainement, les fonctionnaires fédéraux qui refusaient la vaccination risquaient d'être suspendus. Les Canadiens qui perdaient leur emploi, qui n'étaient pas vaccinés, étaient susceptibles, eux, de ne pas avoir accès aux différents programmes d'aide temporaire qui avaient été mis en place pendant la pandémie. En fin de crise, donc, alors que la majorité des Canadiens étaient doublement vaccinés, on était à 80%, le discours de M. Trudeau sur les mesures sanitaires redouble d'ardeur face, et c'est là que c'est intéressant, à Erin O'Toole, vacciné, mais plus soft, favorable au libre choix des citoyens de le faire ou pas. Et c'est le brillant petit essai, je ne sais pas si tu l'as lu, d'Hélène Buzetti, la courriériste parlementaire des coop de l'info, son plaidoyer pour l'extrême centre, c'est comme ça que ça s'appelle, qui me rappelait l'épisode assez cynique de cette dernière bataille électorale et donc les méthodes du gouvernement, sinon du bureau du premier ministre. À ce moment-là, il y avait un quart des Canadiens, 25%, qui étaient, selon les sondages, favorables à l'idée d'envoyer réfléchir en prison quelques jours les non-vaccinés. C'est lourd, ça pèse dans les sondages. Et l'équipe libérale a donc décidé de mettre à profit cette division et de la jouer contre les conservateurs qui, reconnaissons-le par ailleurs, n'avaient peut-être pas le meilleur chef, le plus charismatique. Il y avait d'autres raisons de ce que la machine était un peu enrayée chez les conservateurs. Mais la leçon à retenir, c'est que diviser pour régner, diviser pour avoir l'initiative du discours aussi, est une méthode qui a fait ses preuves et qu'ils ont déjà pratiquée. Alors, je reviens au sondage Abacus qui a été fait à la fin du mois dernier, janvier, et donc qui ne mesure pas l'impact de l'affaire El-Gawabi des derniers jours. On apprend d'abord que les conservateurs sont en très bonne position, en avance, confortable, dans les quatre provinces de l'Ouest, mais aussi en avance par une mince marge. Là, on est dans la marge statistique, effectivement, 2% en Ontario. Ça veut donc dire dans l'Ontario où il y a Toronto qui pèse très lourd pour les libéraux. C'est significatif que les conservateurs soient légèrement en avance. Au total, les conservateurs sont à 37% des intentions de vote, les libéraux à 29%, donc en hausse de 3 points pour les forces de M. Poilievre et en baisse de 4 pour l'équipe Trudeau. Au Québec, les conservateurs peinent à décoller, et c'est là que c'est intéressant, ils sont à 22% en troisième place derrière les libéraux et le Bloc. Le premier ministre a donc beau jeu, je pense, d'alimenter la division et de nourrir ses électeurs, des électeurs hors Québec, qui sont ravis de voir leur champion se tenir debout devant les racistes qu'on est peut-être. Bon, il reste maintenant à voir s'il risque d'en payer le prix de tout ça au Québec. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est surtout le Bloc qui pourrait peut-être gagner au change. Pour l'instant, on verra cette semaine si ça change quelque chose. Le Parti conservateur, son appui au pays du Québec, ne bouge pas beaucoup. Puis avec la carte électorale que tu connais aussi bien que moi, même en perdant des appuis, il y a des comtés qui resteront résolument libéraux. Puis l'autre information importante qui est mise en lumière par le sondage Abacus, c'est qu'une très forte majorité des Canadiens, 70%, estiment que le gouvernement ne consacre pas assez d'énergie aux enjeux qui les préoccupent le plus. Il y en a trois, peux-tu les deviner?
Vas-y.
Inflation, santé, logement. 70%, là, c'est beaucoup de monde qui est en pistolet. 55%, on s'entend, un sondage ne fait pas le printemps, ne fait pas une saison électorale, mais il y a quelque chose qui se dégage, puis je veux pas faire de ce sondage autre chose qu'un outil pour peut-être expliquer ce qui s'est passé et là où sont les intérêts de notre premier ministre. 55% des gens disent que nous allons collectivement dans la mauvaise direction. Et les effets de la crise économique ont absolument pas commencé à se faire sentir au pays, ou sinon à peine. Je pense qu'on n'y échappera pas. Il va y avoir une récession, qu'elle soit douce ou sévère. 49% sont insatisfaits de la gestion du gouvernement. Donc, moi, je pense qu'avec de pareils chiffres, je me demande si le premier ministre ne préfère pas encore être dans l'eau chaude avec l'affaire El Gawabi que de se retrouver dans les câbles sur les grandes questions politiques, économiques et sociales, où il est évidemment totalement imputable. On dira, c'est pas juste au Canada que ça va mal, mais il reste qu'à des degrés divers selon les pays. Les politiques qui ont été appliquées finissent par avoir un impact aussi quand il nous disait qu'il n'y avait aucun risque à emprunter et à dépenser des centaines de milliards de dollars parce qu'on en avait les moyens puisque les taux d'intérêt étaient à 0,25. Évidemment, à ce moment-là, la possibilité que ça monte n'était jamais évoquée. Et je pense que ce qui est révélateur cette semaine, c'est qu'il s'est donné de la marge des deux côtés. Il est en train de se laver un peu les mains de sa future représentante à la lutte à l'islamophobie. Elle est, encore une fois, seule au centre de la tourmente, mais une tourmente créée de toutes pièces par l'équipe de M. Trudeau, qui l'a, je le répète, parfaitement instrumentalisé et laisse maintenant agir ce qu'on pourrait appeler les forces déchaînées de l'émotion. Et en politique, c'est souvent vif. On est polarisé. Et ce qui me surprend à la fin de la semaine, c'est qu'on parle davantage de sa représentante, de ce qu'elle a dit effectivement, que de la manœuvre politique et de la responsabilité du premier ministre dans cette nomination.
Ouais, je te dirais l'incompétence là-dedans. Il est même pas capable de nommer une commissaire porte-parole à l'islamophobie. Fait qu'imagine tout le reste qu'il est pas capable de faire avec les passeports et tout le reste. C'est le coup de la vie. Mais je te dirais que moi, c'est plus ma lecture post quelques années à Ottawa de voir l'incompétence de ce gouvernement-là puis de ce ministre-là, M. Hussein, qui a fait cette recommandation en s'en foutant. Mais bon.
C'est tout à fait possible, auquel cas c'est peut-être encore pire.
Voilà. Hey Stéphane, bonne émission ce soir.
Je serai accompagné de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puisqu'on parle du Parti libéral. Je dis j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de courageux qui a fait la preuve qu'on peut avoir une liberté de conscience et qu'on peut avoir un libre arbitre, quelle que soit la discipline de parti ou les règles de la discipline de parti. Joël Lightbound, qui était le seul l'an dernier, il y a un an, à dire « La loi sur les mesures d'urgence est-elle vraiment nécessaire ?» et qui, cette semaine encore, sur l'affaire El Gawabi, a clairement dit qu'il avait, même s'il est véhémentement, je pense, opposé à la loi 21, il a le droit, a dit « Non, s'il vous plaît, là, c'est peut-être pas des propos qu'on devrait tolérer parlant de celle qui a été nommée par M. Trudeau. »
Donc, j'ai une demande spéciale pour toi. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut être chef du PLQ, s'il te plaît?
C'est ce que j'allais te dire. C'est aussi quelqu'un de très sérieusement considéré. Il est jeune, brillant, articulé. C'est un gars qui est né, je pense, à Toronto, qui est élevé à Québec. C'est le député du comté où se trouve la mosquée où il y a eu l'attentat. C'est quelqu'un qui pense de façon complexe. Puis on n'imagine pas que c'est possible avec la logique des rouleaux compresseurs de la pensée qui est celle d'une équipe politique. Non, il y a ses idées. Alors oui, je lui poserai la question sur ses ambitions. Je pense qu'il y réfléchit encore, mais qu'il est conscient aussi du prix à payer si on veut devenir chef du Parti libéral du Québec.
Bonne émission ce soir, puis on se voit lundi.
Merci.
Salut.
Ciao.